Pour une dernière fois cette saison, dans le cadre de la chronique environnement, j'accueille Pierre-Étienne Drolet, biologiste et coordonnateur de projet au Cobali. Bonjour Pierre-Étienne.
Salut Carl.
De quoi tu nous parles aujourd'hui?
Oui, c'est la période du grand ménage du printemps, fait que on va parler aujourd'hui du rôle des rives comme corridor de déplacement pour la faune et pour l'habitat de la faune. Parce que c'est un rôle important que les bandes riveraines naturelles ont à jouer, en plus de d'autres rôles. Bon, on va voir qu'il y a un petit lien avec le grand ménage du printemps aussi.
Donc, on se concentre sur la faune ce matin. Il y a une réglementation pour appeler aux gens, Pierre-Étienne, qui oblige à garder les bords de lacs naturels. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit rappel, justement, à ce sujet-là?
Ben oui, avec plaisir. OK, au Québec, là, au Québec au grand complet, d'ailleurs, dans un milieu là, de villégiature, mettons au bord d'un lac là, ou en milieu résidentiel, il y a toujours une bande riveraine là, qui doit être maintenue, naturelle et bien végétalisée. Idéalement avec les trois strates de végétation, avec herbacées, arbustes et même des arbres, pourquoi pas. Puis la profondeur minimale à partir du cours d'eau, c'est 10 mètres.
OK.
Dans la réglementation. Puis, ça, c'est calculé à partir du niveau de la limite du littoral du cours d'eau, ça veut dire le niveau de crue là, au printemps. Fait qu'un 10 mètres à partir de là. Si c'est en pente forte, ben là, on parle d'un 15 mètres là, si vous avez une pente de plus que 30 %. On a le droit de l'ouverture, de faire une ouverture d'à peu près 5 mètres au maximum là, pour accéder au cours d'eau, là, pour aller au quai. Mm-hmm. Ça, il n'y a pas de problème. Certaines municipalités, ça va être un peu moins large. Il faut regarder avec les règlements de votre municipalité. Sinon, ben, y a aussi une réglementation plus municipale là, qui oblige souvent les gens depuis longtemps là, à revégétaliser là, au moins 3 mètres ou 5 mètres. Mettons ceux qui ont encore du gazon, là, qui achètent une maison qui a encore du gazon sur le bord de l'eau, ben, il faut revégétaliser. Puis le petit Q, là, pour ceux qui pensent que c'est une nouvelle affaire, là, cette protection des bandes riveraines, là. En fait, là, si j'aimerais mentionner que l'historique de l'adoption de ces normes-là par le gouvernement du Québec, ça remonte à 1989. Ça veut dire que ceux qui tondent encore la pelouse au bord du lac, ben, ils sont un peu restés là, en 1989 là, dans leur cœur d'enfant, j'imagine. Là, c'était l'époque de, souviens-toi, de l'URSS, des imprimantes avec des feuilles à trous sur les côtés. C'était avant les CD et Internet. Là,
Les cassettes de Mario Bros aussi, hein, qu'il fallait souffler dedans.
C'est ça. Au cinéma, là, c'était Batman contre le Joker puis Indiana Jones, la dernière croisade.
Ça nous donne une bonne idée.
Ça donne une idée. Fait que ça date pas d'hier, là, cette réglementation-là.
Donc ça commence à remonter quand même à loin. Il doit y avoir une raison, Pierre-Étienne, de protéger les bords de l'eau, entre autres pour la faune, je présume?
Ben oui, parce que vu que les rives, c'est un endroit où on passe du milieu terrestre au milieu aquatique, ben, c'est un endroit de transition, finalement. Fait qu'à peu près toutes les espèces peuvent trouver leur compte dans ce type d'habitat-là. Fait que c'est très riche en général, les rives. Puis pour les déplacements, ben si les bords de lac étaient justement maintenus plus naturels, ben on aurait des corridors. T'sais, de facto, on aurait des corridors aussi pour le déplacement de la faune le long des lacs, puis aussi le long des rivières puis des ruisseaux. Fait que ce qu'on sait, qu'il y a beaucoup d'espèces qui ont besoin de se déplacer sur des assez grandes distances pour remplir tous leurs besoins, y compris pour la reproduction. C'est bien beau d'être tout seul sur son lac, là, mais à un moment donné, si on veut que l'espèce se perpétue, il va falloir rencontrer quelqu'un. Et je vais donner quelques exemples pour des mammifères aquatiques, peut-être que tu connais, là, le vison. Comme
à ne pas confondre avec le bison, là, c'est
non,
pas une force
c'est
de fin.
Pas le même format. Le vison, c'est comme une petite belette aquatique, si on veut, puis la loutre.
OK.
Fait que savais-tu ça qu'un vison, c'est un territoire d'à peu près 8 km carrés?
Non.
C'est un petit animal, mais 8 km carrés, c'est quand même grand. Puis chez les loutres, une femelle, ça a un territoire d'à peu près 70 km carrés. Bon, les loutres mâles, elles sont plus courageux, comme tu t'en doutes.
Sûrement.
Couvrent le territoire de plusieurs femelles pour un territoire de mâles qui peut avoir jusqu'à 250 km carrés.
Oh, OK, quand même.
Fait que ça se déplace en titi. Fait que on sait qu'une loutre couvre à peu près chaque nuit environ 4 à 5 km de berge, c'est chaque nuit.
OK. Faudrait s'y mettre, nous autres aussi.
On sera en forme.
Et
quand on parle de corridor puis tout ça, c'est que la faune, elle se déplace. Elle a besoin de se déplacer, puis ça y prend des milieux naturels pour le faire.
OK. Donc, si je suis bien, les berges sont plus artificielles ou en gazon. Les animaux vont éviter ces secteurs-là, donc ça nuit à leur déplacement.
Oui. En fait, on dit que l'habitat est fragmenté. Là, c'est un des problèmes en conservation. En plus de la perte de l'habitat carrément quand on détruit les milieux, c'est que dans les bords de lacs très habités, ben c'est qu'il y a un problème de connectivité entre les milieux naturels. Les espèces sont plus capables de passer de un à l'autre. Pour ce qui est dans la rive, on a aussi des besoins un petit peu plus précis qui sont liés avec les arbres puis le bois mort. C'est drôle, hein? On parle pas souvent de ça, le bois mort. Mais il n'y a rien de mieux, en fait, pour la faune que du bois mort. Fait que un arbre qui est sur pied, il est encore debout, là, qui est mort, ben il va finir par avoir des trous. Il va se créer des cavités qu'on appelle dans le bois mort. Puis ça va être utilisé par plein d'espèces, dont des canards arboricoles.
OK, là, il va falloir que tu m'expliques c'est quoi des canards arboricoles.
Yes! On a plusieurs espèces de canards, c'est pas super connu, là, mais des espèces de canards qui nichent carrément dans des arbres creux, en fait. On a plusieurs espèces comme le canard branchu, hâle couronné, le grand hâle, le garrot à œil d'or, et qui vont faire leur nid dans ces arbres creux-là.
OK.
Qui deviennent, comme tu t'en doutes, de plus en plus rares au bord des lacs. Pour ce qui est du bois mort au sol, ben là, on va avoir des habitats pour les salamandres, les insectes. Puis quand on a des troncs qui sont tombés, où tu sais qu'on a des souches, plein d'arbustes denses, ben là, on a des oiseaux qui vont pouvoir nicher au sol, comme la bécasse ou les bruants. Les visons, les loutes dont je parlais tantôt vont pouvoir creuser des terriers qui vont être cachés dans la végétation. Fait que ça prend du bois, ça prend des endroits, des cachettes. Si on fait le ménage, comme la plupart des gens font, on enlève toutes les arbres morts, les arbres secs, on enlève ce qui est tombé par terre, on passe le râteau, on roque tout. C'est bien beau, mais
c'est mort.
C'est mort. C'est ça, il n'y a plus grand fond. Fait que si on a, proche de l'eau, si on a des morceaux de bois dans l'eau et la végétation, mais là, les amphibiens et les poissons vont pouvoir pondre leurs œufs quand c'est inondé au printemps.
Comme le brochet,
on avait déjà parlé. Puis, au bord de l'eau, ben, les arbres vont servir de perchoir pour les martins pêcheurs, les pigargues, les balbuzards, tout ce qui mange du poisson va pouvoir observer dans l'eau.
Question. Quoi faire si jamais il y a un arbre qui est tombé dans l'eau? Est-ce qu'on l'enlève ou pas?
On le garde. On se la fait souvent poser, cette question-là. Mais à moins qu'il y ait un gros danger, là, tu sais, que la souche va partir avec beaucoup de terrain, puis que là, il y a comme un cabanon qui va tomber dans le lac, là. À moins qu'il y ait un enjeu de ce genre-là, on le laisse. Parce qu'il n'y a rien de mieux qu'un arbre mort dans l'eau pour attirer les poissons. Si t'es un peu pêcheur, tu le sais que c'est souvent des bons spots pour attraper des poissons. Pourquoi? Parce que les insectes aquatiques vont être attirés par le bois mort, vont se concentrer là. Puis aussi, les poissons vont aller se cacher en dessous du tronc à l'ombre. C'est une super bonne cachette. Fait que les pêcheurs appellent ça une structure dans le jargon des pêcheurs. Là. Fait que des choses dans l'eau qui servent aux poissons pour se cacher.
Mais j'ai-tu rêvé pour les tortues? Il y a quelque chose aussi en lien avec ça?
Oui, les tortues, ben quand l'arbre est sur le dessus de l'eau, les tortues vont l'utiliser pour aller se chauffer au soleil. C'est des animaux qui ont besoin de réguler leur température en prenant des bains de soleil. Fait qu'à ce moment-là, on peut voir des tortues peintes, exemple, qui vont s'agglutiner sur des troncs d'arbres pour se réchauffer.
Et Pierre-Étienne, les castors, est-ce que t'as des trucs pour ceux qui se font manger des arbres?
Ouais. Ben, premièrement, il faut comprendre, là, le castor est en train de revenir un peu à ses populations normales après des siècles de trappage intensif. Puis en plus, on a enlevé le loup qui était son prédateur principal. Fait que les castors, il y en a de plus en plus parce que la plupart des trappeurs sont sur le bord de la retraite en ce moment. Il y en a plus beaucoup qui font ça. Puis au Québec, ben un lac pas de castor, ça n'existe pas. Fait qu'il faut se le tenir pour dit, là. C'est une espèce qui va revenir beaucoup. Si vous avez des problèmes avec vos arbres, ben, dans le fond, c'est de mettre du grillage à poules, entourer les troncs avec du grillage pour empêcher le castor. Faut le mettre quand même assez haut parce qu'il va pouvoir aller sur la neige l'hiver, puis aller couper plus haut que vous pensez. Fait qu'il faut quand même mettre du grillage assez haut là, pour protéger vos arbres. Puis on peut planter des conifères parce qu'ils n'aiment pas beaucoup croquer, exemple le mélèze, qui est un arbre qui va pas du tout manger. Fait qu'on peut aussi prévoir un peu les espèces là, que le castor va rejeter là, pour mettre au bord de l'eau si on veut prévoir le coup, si vous savez qu'il y a des castors dans votre coin.
Donc, on est dans le grand ménage du printemps, mais faut pas nécessairement pour autant faire le ménage de notre bande riveraine, c'est ce que j'en comprends. Ça en fait de toute façon moins ramasser et plus de temps pour profiter du lac, puis ben ça, profiter
on
du
aime
lac,
ça.
On adore. sinon, Pierre-Étienne, en terminant, le Cobali est à la recherche de bénévoles pour retirer des déchets d'un milieu humide à Saint-Émile-du-Lac-des-Îles, si je me trompe pas, c'est le samedi 31 mai prochain. On peut aller sur votre site web ou encore sur votre page Facebook, si jamais ça nous intéresse.
Oui, le 31 mai, le Nettoiton à Saint-Émile-du-Lac-des-Îles. Surveillez ça sur notre page Facebook si ça vous intéresse de bénévoler pour l'environnement.
Pierre-Étienne Drolet du Cobali est avec nous. Il est biologiste et coordonnateur de projet là-bas. Un gros merci pour la belle saison. Puis j'imagine qu'on se retrouve en septembre.
Ben oui, merci à ce fellow. Puis merci à toi, Carl.
Salut Pierre-Étienne. Bye bye.
Salut.
Good. Excellent.